Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre, ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait quelqu'un qui approuvât mon caractère, il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence, et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme dont la présence engendrait des fleurs sur son passage. Il s'approcha de moi, et me tendant la main, « Je suis venu vers toi, toi qui me cherches. Bénissons ce jour heureux. Mais moi, va-t'en. Je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas besoin de ton amitié. »
Il est évident que le Dazette du premier chant anonyme ne correspond en rien au Dazette dont on peut suivre et la carrière et les conquêtes amoureuses, et bien entendu que immédiatement, donc c'est effectivement, il y a là un nom. Moi, ce qui me frappe, c'est que on dirait que la récupération du nom Ducasse est liée d'une façon très nette à la disparition du nom de Dazette, lequel nom, effectivement, ne recouvre pas un personnage réel qui se nommait effectivement Dazette, Philippe Solers.
Moi, je crois que ça va de soi parce que il est évident, si vous voulez, qu'au fur et à mesure que se développe ce procès analytique d'écriture, tous les objets extérieurs, les objets d'investissement vont se trouver détruits. N'est-ce pas? Et c'est une sorte de démarche dialectique et de réappropriation de tous les investissements extérieurs. Et alors, je voudrais justement simplement dire un mot de l'aspect sexuel de la question, oui, qui me paraît important et sur lequel on n'assiste pas assez. C'est que on peut prendre les chants de Maldoror comme une sorte de formidable investissement rhétorique du romantisme avec sa négation parodique. Mais à l'intérieur même, si on suit le mouvement d'écriture des chants, ce qui de plus en plus commence à faire question, ça sera ce que j'appellerais l'absence du rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Et de ce point de vue, Ducasse est probablement le premier à insister avec cette précision sur l'impossibilité du rapport sexuel. Je crois que c'est encore un champ sur lequel il faudrait avancer. Alors, dans les poésies, il est clair que cette absence éclate à chaque instant et que nous avons cette très bizarre formation d'énoncé positif, avec reprise parodique du positivisme, en contradiction complète avec cette longue cure analytique sans précédent et formidable qui est les chants, mais d'énoncés positifs qui se donnent sous la forme impossible d'un humour complètement inaccessible. Ce qui fait que les gens en général devant ces textes restent interdits. Ils restent interdits pourquoi? Parce que c'est l'affirmation complètement détachée de l'absence radicale du rapport sexuel, là où nous savons que tout le monde, chacun, veut absolument réintroduire une fantasmatique sexuelle. Donc cette fantasmatique sexuelle, elle a été en quelque sorte consumée au fur et à mesure, ce qui va dans votre sens, c'est-à-dire que Dazé, il est brûlé, par cette aventure. C'est une aventure qui ne laisse rien derrière elle, c'est une table rase, il n'y a plus aucun investissement, ce qui va à l'encontre, si vous voulez, de toute la littérature traditionnelle telle qu'elle se poursuit encore, où on va chercher toujours qui l'auteur a aimé, qui l'a rencontré, avec qui il a pu faire certaines petites choses, etc. Voilà, alors là je crois qu'on est au cœur du problème probablement si on veut comprendre exactement de quelle nature est l'humour de l'autre amant, qui n'est pas un humour facile comme ça.
Marcelin Plenet.
Non, je voulais vous demander justement, Solers, est-ce que vous ne pensez pas que... Moi, c'est une chose que j'ai remarquée depuis que ce livre est terminé, je veux dire, et même en le regardant à nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, ce que vous venez de dire de la problématique sexuelle qui se joue là, est-ce que vous ne pensez pas que la constante question sur le nom même de l'autre amant, sur son nom, sur son prénom, les jeux de mots qui ont été faits, qu'on a cherchés, n'est-ce pas, l'autre est amant, il y en a pas mal comme ça, est-ce que vous ne pensez pas que ça concerne très directement ce côté interdit des chants et la tentative de les aborder par le nom même de celui qui pose cet interdit?
Précisément, s'il n'y avait pas cette impossibilité pour le lecteur d'imaginer quelle sexualité écrit ça, il n'y aurait pas tout ce patouillage autour de ce texte. Emphatisation, mythologisation, recherche. Vous savez, à la limite, nous sommes là devant presque un micro-exemple de la formation des religions. C'est que quand on ne peut pas saisir ce qui s'est joué de sexuel dans quelque chose qu'il faut bien appeler une aventure symbolique, alors on a toujours tendance, évidemment, soit à fétichiser, soit à ériger ça en mystère, soit à en faire une grande aventure métaphysique. Et c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus.
Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon mouillé de ses pleurs. La lune a dégagé son disque de la masse des nuages et caresse avec ses pâles rayons cette douce figure d'adolescent. Ses traits expriment l'énergie la plus virile en même temps que la grâce d'une vierge céleste. Rien ne paraît naturel en lui, pas même les muscles de son corps qui se fraient un passage à travers les contours harmonieux de forme féminine. Il a le bras recourbé sur le front, l'autre main appuyée contre la poitrine, comme pour comprimer les battements d'un cœur fermé à toutes les confidences et chargé du pesant fardeau d'un secret éternel. Fatigué de la vie et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas, le désespoir a gagné son âme et il s'en va seul comme le mendiant de la vallée.
La sexualité de Ducasse fait problème. Non pas parce qu'elle est extraordinaire, mais probablement parce qu'elle est une aventure de déprise de la sexualité.
C'est pour ça que si on se réfère au livre de Caradec dont il était question au début de cette émission, on s'aperçoit, comme je le disais, que finalement, de cet inconnu, nous savons tout, mais comme nous ne savons justement pas ce que vous venez de dire, il reste l'énigme. Et enfin, je voudrais, Marcelin Plenet, vous poser une dernière question, qui est celle-ci. Il semble au lecteur attentif que cet Isidore Ducasse, comte de Lautréamontanto, anonyme précédemment, puis Isidore Ducasse, n'écrit jamais que des préfaces. Le chant 1 anonyme s'avance comme, d'ailleurs, du fait même qu'il s'appelle chant premier, hein, s'avance comme préludant à un ensemble. Les chants de Maldoror se terminent par l'annonce de courts romans à venir. Poésie introduit à une réécriture des chants de Maldoror, à une correction des chants de Maldoror, à une mise du mal au bien, comme dira plus tard Éluard, les deux, évidemment, charriantes, si vous voulez, des procédés d'écriture très curieux, disons, dans le fonctionnement culturel, surtout du temps, à savoir le collage en ce qui concerne les chants et les maximes classiques retournées en ce qui concerne poésie. Alors, c'est ça. L'aspect préface et l'aspect collage et maxime retournée, sur lequel j'aimerais vous entendre vous exprimer.
Les poésies sont d'ailleurs préface à un livre futur, n'est-ce pas ? Et je pense que pour ça, il faudrait reprendre ce que je disais au début du caractère propre du travail de Lautréamont sur le tissu culturel qui est le sien et le reprendre en fonction de ce que disait Soler, c'est-à-dire en fonction de l'inconscient de ce Ducasse-là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire finalement reprendre ce que cet inconscient-là va faire apparaître dans la littérature, va en nettoyer et en fait va apparaître comme la fin d'une certaine littérature et aussi la préface à la littérature moderne. Lautréamont aperçut les deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'il liquidait tout un pan de sa culture, et qu'en même temps, et c'est sans doute là d'ailleurs où intervient l'humour, parce que il est bien évident qu'en même temps, ce qui s'ouvre là est d'une certaine façon tout à fait impensable, n'est-ce pas, au même moment. et que il s'agit bien, en effet, de préfaces, mais aussi qui ne seraient pas des préfaces, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire des préfaces qui ne seraient suivies d'aucun livre.
Ou de livres qui n'auraient pas de préface, n'est-ce pas, si vous voulez ? C'est-à-dire que, en fait...
Impréfaçable.
Exactement.
Impréfaçable, c'est-à-dire que c'est une écriture qui évacue toute autre écriture de moindre puissance au sens mathématique du mot. C'est quelque chose qui est indéfiniment effervescent et qui évacue complètement, dans la mesure, tout autre langage moins puissant que le sien, ce qui est très important. C'est pour cela que ça fait crise dans la littérature, et ça va continuer à faire crise dans la littérature, et à partir de là, il n'y aura que des crises dans la littérature lorsque quelque chose du même ordre va se produire, malgré les efforts pour le colmater. Ça sera la même chose pour Artaud ou pour Joyce, n'est-ce pas ? Et pourquoi, au fond ? Parce que c'est la position du sujet, là, qui, par rapport au langage, qui est complètement subverti et complètement nouvelle. C'est Ducasse s'évacuant lui-même de ses énoncés, et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a l'impression qu'il découvre cette chose tout à fait extraordinaire, un continent nouveau, c'est que tous les énoncés qui sont à sa portée, toutes les phrases qui sont à sa portée, et on pourrait aller beaucoup plus loin, sont maintenant un matériau traitable. Et c'est cette distance de quelqu'un à son langage qui est probablement la jouissance même, qui fait que ça nous paraît être une énigme. Car il est évident qu'il y a dans toute cette affaire, dans la façon même de traiter la rhétorique, de la retourner, de jouer avec et de s'en servir avec cette distance de l'humour, il y a une jouissance considérable. Donc c'est un texte de parfaitement jouissif, enfin, qui est en train de jouir. Mais j'indique bien que cette jouissance fait question, parce qu'il ne s'agit pas précisément d'une jouissance sexuelle au sens où nous avons toujours tendance à la réintroduire.
Marcelin Plenet.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement dans ce double moment, c'est-à-dire le moment du rapport à la rhétorique et le moment de ce que vous disiez tout à l'heure du positivisme, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la façon dont Ducasse traite la rhétorique, c'est une façon pour lui de traiter la crise religieuse qui s'inscrit à la fin du 19e siècle en France, n'est-ce pas ? Et que il ne va pouvoir la traiter de toute façon qu'en choisissant ce prélèvement de l'humour pour traiter aussi le problème du positivisme. N'est-ce pas que c'est le moment de la crise religieuse ?
Oui, mais n'oubliez pas, il me semble, moi, qu'au moment où il récupère son nom, Isidore Ducasse, il récupère aussi, semble-t-il, même humour ou non, retournement des maximes. D'ailleurs, il me semble que le retournement des maximes est la négation de ce que le 19e siècle avait pris dans la culture, c'est-à-dire l'immobilité, les valeurs éternelles. Mais, quand même, à ce moment-là, Isidore Ducasse, on le voit, même par ses fréquentations, comme Zirkos, avec les gens dont on sait qu'il a été l'ami, damé, qu'il récupère une sorte d'ordre contre un désordre, qui est celui du Second Empire.
Oui,
ou de la culture.
Oui, mais c'est un ordre impensable. Et ça, c'est très important. Et ça, vous savez que c'est le contresens de Camus. Enfin, ou d'interprétation que j'appellerais humaniste, ou étroite, au sens étroit du terme, qui ont pensé que, et beaucoup de gens ont eu tendance à le penser, je suis pas sûr que ça n'existe pas encore, que les poésies étaient une sorte de reniement, de la période des chants et du romantisme et de la révolte. Vous savez, à partir du moment où vous avez cet investissement que j'appellerais œdipien, hein, parce que pour l'appeler par son nom, contre l'autorité, contre la révolte, etc., vous êtes dans une certaine forme de langage qui reste moins puissant que celui que l'autre amant est en train d'élaborer et qui est tout à fait nouveau, car avec lui, c'est d'une part la percée psychanalytique et toute la percée d'un nouveau savoir sur l'espèce qui est en train d'avoir lieu. Il est en train d'inventer justement un langage qui est celui d'un ordre, mais définitivement non clos, définitivement ouvert, définitivement, par conséquent, impensable comme un tout.
Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuel. La poésie doit être faite par tous, non par un.
Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, l'autre est amant. Avec la participation de Noël Arnaud, François Karadec, Alain Jouffroy, Marcelin Plenet, Philippe Solers et les voix de Jean Bollery et Jean Topard. Chef opérateur du son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Annie Lebeg. Assistant de production, Jean-Claude Loiseau. Réalisation, Anne Lemaitre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juin 1975.